Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir que d'être parmi vous. Peut-être me présenter rapidement. J'ai été présenté sur mon badge comme le directeur du Forum culturel protestant. Et le Forum culturel protestant est un lieu, une association qui encourage les chrétiens à s'intéresser à la culture, à apprendre à la connaître, à mieux la comprendre, mieux l'apprécier aussi. Et du même coup, en faisant cela, en parlant de la culture d'un point de vue et à partir d'une perspective chrétienne, nous encourageons aussi des non-chrétiens à venir parmi nous, parler avec eux, apprendre à les connaître eux, pour qu'eux aussi apprennent à connaître ce que pensent les chrétiens de la culture. Et puis, je suis aussi professeur de Nouveau Testament à l'Institut biblique de Nogent, à la faculté de théologie d'Aix, et puis très bientôt à Vaux-sur-Seine. Et ces deux domaines de ma profession, entre guillemets, le Forum et le Nouveau Testament, sont mes deux passions. Et quelque part, ce ne sont pas deux passions toujours faciles à faire interagir l'une avec l'autre. Alors je suis très reconnaissant. Ce matin, eh bien, cette possibilité me soit offerte de le faire avec vous. Cette journée et cet exposé, je pense en particulier, est donc pour moi l'occasion de proposer une telle interaction entre ces deux disciplines, la Bible, le Nouveau Testament, et la culture, en particulier l'étude des sciences humaines. Alors j'ai proposé comme titre, il y a assez longtemps de cela, pour mon étude biblique, « Jésus, le Logos ». Dans le prologue selon l'évangile de Jean, quelles implications pour les sciences humaines? Alors vous savez, parfois on propose un titre avant d'avoir bien réfléchi à ce que l'on pouvait dire sur le sujet. J'avais quelques idées et puis je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué. Mais bon, voilà, les choses sont venues quand même assez récemment, à vrai dire. Mais je me rends compte que l'intitulé de mon exposé pourrait conduire à un certain malentendu. Alors je vais essayer de le clarifier pour vous, pour ne pas décevoir vos attentes. Ce matin, je n'ai pas l'intention de rendre explicites les liens nombreux, sans aucun doute très intéressants, entre logos, la notion de logos dans le prologue de l'évangile de Jean, et telle ou telle discipline appartenant aux sciences humaines. Autrement dit, je ne vais pas tenter ce matin de clarifier les relations existant, par exemple, entre le logos et la linguistique, entre le logos et l'herméneutique ou le logos et la sociologie. Non, ces liens sont profonds, sans aucun doute, et une telle démarche, bien que massive, vaudrait tout à fait la peine d'être entreprise. Seulement, je n'ai ni le temps ni les capacités de l'entreprendre moi-même maintenant. Par contre, ce que j'aimerais proposer, c'est une vision globale du Logos dans le prologue de l'Évangile de Jean, une vision qui, je l'espère, pourra vous permettre d'aller plus loin, de préciser sa signification et ses rapports avec vos domaines de recherche, ou d'études, ou de pratique. Pour préparer cet exposé, je me suis donc posé la question suivante. Quel principe, quelle direction, quelle piste la présentation du Logos dans le quatrième évangile pourrait-elle ouvrir pour tous ceux, et les chrétiens en particulier, qui sont impliqués dans les sciences humaines, dans la recherche, donc dans l'enseignement ou la pratique? Je suis moi-même fasciné par l'évangile de Jean, par un aspect en particulier du récit sur la vie, sur le ministère de Jésus qu'il propose. Dans cet évangile, des déclarations étonnantes, parfois franchement controversées, sont émises à l'égard de Jésus. Nous les connaissons. Jésus est la lumière du monde, chapitre 8. Jésus est la porte des brebis, chapitre 10, verset 7. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, 14, verset 6. Jésus est la vraie vigne, etc. Cette identification, ces fameux « je suis » suivis de prédicats est intrigante. Comment une personne, Jésus en l'occurrence, peut-elle être la vérité? Comment une personne peut-elle être la vie? Dans le prologue, ce n'est pas Jésus qui s'identifie lui-même Logos, mais l'évangéliste, lui, rend cette identification explicite. Jésus est le Logos. Alors, que signifie une telle identification ? Avant de répondre, j'aimerais tout de même que nous lisions ensemble ce prologue de l'Évangile de Jean. Je vais lire dans la version de la NBS. Donc, Jean, en Jean 1, des versets 1 à 18. Alors, je lis dans la version de la NBS, mais je prends quelques distances avec certains choix de traduction. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui n'est venu à l'existence n'est venu à l'existence sans elle. En elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. La parole, le logos. Le logos est effectivement un terme qui signifie en grec parole, affirmation ou propos. Mais dans la plupart de nos traductions de Jean 1, ce mot est généralement rendu par parole avec une majuscule où les anciens disaient le verbe. Avec une majuscule également. Tout simplement parce que chacun reconnaît que ce mot prend là une signification toute particulière. C'est que le prologue fait quand même très fort, en commençant par ces phrases merveilleuses. Au commencement était le logos était auprès de Dieu et le logos était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par lui. Il est clair que le logos n'est pas un attribut divin comme les autres. Ici, il est personnifié, présent auprès de Dieu, actif dans la création. Plus encore, il est Dieu lui-même. La question qui doit donc nous préoccuper est de savoir quelle est la signification de ce logos johannique et ce qu'aurait été son impact sur les premiers lecteurs du quatrième évangile. Eh bien, pour tenter de répondre à ces questions, il est important de faire un court détour du côté des sources probables dans lesquelles l'évangéliste est allé puiser son utilisation de ce mot. Autour de 500 avant Jésus-Christ, des philosophes grecs ont adopté ce mot et l'ont utilisé pour signifier quelque chose de tout autre que son sens usuel de parole ou de propos. Le logos devint, pour Héraclète, par exemple, ce qui donne forme ou ce qui donne vie à l'univers matériel. Pour lui, le logos était un terme utilisé pour dénoter ce qui gouverne le monde. Il représentait la raison, avec une majuscule aussi, ou l'intelligence. Plus tard, le stoïcisme reprit une partie de cette idée à son compte. Ce système philosophique pensait en effet que toute chose, tout objet, avait son propre logos qui gouvernait la forme de sa vie. Et il pensait également, ce stoïcisme, que la totalité des objets était organisée en cosmos par un seul logos. un seul principe unitaire et parfaitement immanent. Alors, connaissant l'importance du logos dans la philosophie grecque, bien des études ont tenté de relier le logos johannique à une de ses sources philosophiques. Mais aujourd'hui, une telle dépendance apparaît de plus en plus difficile à tenir. En effet, un certain consensus s'est créé depuis quelques années maintenant, selon lequel le milieu intellectuel et le milieu religieux du quatrième évangile est beaucoup plus proche du judaïsme de son temps que de la philosophie hellénistique. Ainsi, aujourd'hui, un nombre croissant d'experts pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher la source de l'utilisation johannique du logos au-delà de l'Ancien Testament et au-delà de la sphère religieuse juive. Et justement, force est de constater qu'une caractéristique très intéressante de la littérature religieuse juive, et en particulier de la littérature sapientielle, de la sagesse, est de décrire des attributs divins comme des êtres personnifiés, des agents de Dieu, même si ceux-ci n'acquièrent jamais une existence indépendante de Dieu. Alors, j'aimerais rebondir sur deux d'entre eux qui me semblent particulièrement pertinents pour cette étude sur le Logos. Ces deux attributs sont la parole de Dieu et sa sagesse. C'est en effet dans ces deux notions bibliques que le Logos johannique trouve très certainement sa source, comme l'indique d'ailleurs bon nombre de parallèles entre le prologue de l'Évangile et certains de ses antécédents. Tout d'abord, comme le Logos en Jean 1, la fonction créatrice de la parole de Dieu, déjà présente en Genèse 1, est reprise dans les psaumes ainsi que dans le livre de la sagesse. Le psaume 33 dit « C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait ». Et puis le livre de la sagesse, chapitre 9, verset 1, dit « Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, toi qui as fait l'univers par ta parole ». Mais il existe également des textes dans lesquels la parole de Dieu est pratiquement personnifiée, exerçant une fonction bien spécifique. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, dit Ésaïe, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Vous voyez, là, la parole prend une certaine autonomie, elle a un rôle à jouer, elle est active. La sagesse est un autre exemple évident de cette tendance à parler de Dieu dans son implication dans la vie de l'humanité. Dans les proverbes, Dame Sagesse, Sophia, s'adresse elle-même au lecteur et en Proverbes 8, versets 22 à 31, par exemple, elle se présente comme la compagne de Dieu lors de la création du monde. Et juste après, elle invite ses lecteurs à marcher avec elle, car c'est en elle que se trouve la vie. Dans la littérature sapientielle plus tardive, la personnification de la sagesse continue, prend même de l'ampleur. En sagesse, elle est présentée comme l'artisane de l'univers, celle qui décide des œuvres de Dieu, ou encore celle par qui Dieu a formé les humains. Elle partage, de fait, le trône de Dieu, chapitre 9, verset 4, et elle est envoyée auprès des humains. Pareillement, en Siracide, la sagesse proclame son propre éloge. Au chapitre 24, elle se dit présente dans l'assemblée du Très-Haut, elle se dit créée depuis avant le commencement du temps et amenée à vivre éternellement. Elle est celle qui établit sa demeure en Israël et qui appelle donc les lecteurs à venir vers elle pour être rassasiés de ses fruits. Pourtant, selon 1 Hénoc, chapitre 42, elle n'est point reçue auprès des humains. La présentation qui est faite du Logos dans le prologue du quatrième évangile évoque naturellement de telles descriptions de la parole de Dieu et de la sagesse divine, des notions bien implantées dans la pensée juive de l'époque. Nous l'avons lu dans le prologue, le Logos est, comme la parole, comme la sagesse, lui aussi impliqué dans la création. Et en lui se trouve la vie, dans chapitre 1, versets 1 à 4. Plus tard, comme pour la sagesse de la littérature sapientielle, le prologue déclare du Logos qu'il est venu dans le monde pour y faire sa demeure. Chapitre 1, versets 9 et 14. Même si les siens ne l'ont pas accueilli. Au verset 11. Il apparaît donc assez clairement que les sources du logos johannique sont à trouver du côté des écritures juives, notamment sapientiel. En personnifiant le logos, l'évangéliste se place à la suite d'une longue lignée de penseurs et d'auteurs juifs ayant réfléchi à la nature de l'action de Dieu dans le monde. Pour le quatrième évangéliste, parler du logos est une manière de dire l'implication immanente de Dieu dans les affaires humaines. Mais de telles sources, en elles-mêmes, ne sauraient élucider toutes les raisons ayant poussé l'évangéliste à choisir le terme « logos » dans son prologue, à moins de saisir également les associations profondes dans la pensée juive, toujours, entre sagesse, parole de Dieu et Torah. En effet, dans bien des écrits juifs, la Torah est parole de Dieu, tout comme elle est sagesse de Dieu. Bien des Juifs et des Samaritains pensaient d'ailleurs que la sagesse de Dieu était localisée, concentrée dans la Torah. La Torah était non seulement source de lumière, mais elle était elle-même lumière et vie. Dans des textes du 1er siècle, nous la découvrons même comme éternelle, cette Torah, éclairant de sa lumière impérissable ceux qui sont assis dans les ténèbres. Moïse aurait allumé la lampe de la loi pour repousser les ténèbres du péché et de la mort qui étaient entrées dans le monde avec Adam. Ainsi, la Torah représentait déjà, dans la pensée juive, l'implication immanente de Dieu dans les affaires humaines. Si elle avait été donnée spécialement à Israël, sa lumière devait servir à éclairer toutes les nations. Eh bien, il n'est donc pas surprenant que le prologue du quatrième évangile se fasse également l'écho d'une telle compréhension de la Torah, tout en appliquant ses caractéristiques au Logos. Il dit par exemple du Logos qu'en lui était la vie, ou qu'il était lumière des humains. Tout au long de ces 18 versets, une comparaison forte est ainsi établie entre le Logos et la Torah. Si Moïse a vu la gloire de Dieu, la Shekinah, sur la montagne, après le don de la loi en Exode 24, une gloire plus lumineuse encore, une gloire de fils unique, issu du Père, s'est-elle manifestée parmi nous quand le Logos s'est incarné, quand il s'est fait chair, au chapitre 1, verset 14. Parallèlement, si la Torah était effectivement lumière, le Logos est lui la véritable lumière, celle qui éclaire tous les humains, chapitre 1, verset 9. Oui, là, on voit que le Logos surpasse ou éclipse la Torah, si bien que la conclusion du prologue est sans appel. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, au verset 17. Sans dénigrer la Torah, le message que veut faire passer le prologue est tout de même que le Logos incarné en Jésus-Christ la supplante largement. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs auteurs aient remarqué que l'utilisation johannique du Logos serve, dès le prologue, à préparer les lecteurs pour le motif du remplacement qui sera développé tout au long de l'Évangile. Le Logos, en un sens, vient remplacer la Torah, ses attributs, ses fonctions, ses institutions aussi. Et on sait que les différents festivals qui rythment le récit de l'Évangile de Jean servent à un enseignement sur Jésus lui-même qui vient supplanter, surpasser ces institutions. Le Logos est supérieur à la Torah. Il est la parole créatrice, la sagesse de Dieu, la vie qui est lumière des humains. Plus encore, il est Dieu lui-même. Alors j'ai pu jusqu'à présent évoquer les arrière-plans scripturaires du Logos, nous aidant à mieux cerner son identité et sa fonction dans le prologue. J'ai proposé que ce sont les idées hébraïques de la parole de Dieu et de la sagesse divine qui se trouvent principalement en toile de fond de la conception johannique du Logos. Le Logos est un agent de Dieu, son représentant dans les affaires humaines. Or, ces deux idées, la parole et la sagesse de Dieu, étant associées à la Torah de manière presque intrinsèque dans la pensée juive, il y a fort à parier que la comparaison qui est faite entre Logos et Torah tout au long du prologue, serve la théologie johannique du remplacement. C'est en Jésus-Christ, le Logos, que se trouve ultimement la véritable sagesse, la véritable lumière et la vie éternelle. Alors j'aimerais à présent aller un petit peu plus loin dans notre réflexion sur l'implication du logos dans les affaires humaines. Après tout, je n'oublie pas que le sujet que je me suis proposé de traiter est Jésus le logos, quelles implications pour les sciences humaines ? Alors dans ce but, j'aimerais m'attarder sur deux thématiques me semblant particulièrement à propos. Premièrement, et deux thématiques du prologue. Premièrement, le logos comme créateur et rédempteur du monde. Puis deuxièmement, le logos comme lumière véritable qui brille dans les ténèbres. Le prologue, au verset 1, la toute première phrase, annonce « Au commencement était le logos ». Et il est bien évident que notre auteur ici essaie d'évoquer les premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu, Dieu créa. Mais, comme nous l'avons vu, c'est surtout dans la littérature sapientielle, où la sagesse est personnifiée comme prenant part à la création, que nous trouvons la source principale de cette présentation du logos. Et comme dans cette littérature, le logos du prologue est présent lors de la création. Il est auprès de Dieu et rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu à l'existence sans lui. Plus tard, au verset 10, nous lisons également qu'il était dans le monde et le monde est venu à l'existence par lui. Dans le prologue, donc, comme dans la littérature sapientielle, le logos, sagesse, est impliqué dans la création de toutes choses, voire créateur lui-même. En même temps, il ne faut pas oublier que dans cette même littérature sapientielle, la sagesse personnifiée a également pour rôle d'appeler le peuple de Dieu sur le droit chemin, leur offrant la vie et la faveur de Dieu. Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur, dit le Proverbe 8, verset 35. Ces deux aspects de la sagesse, donc, le logos créateur et le logos rédempteur, la sagesse créatrice et rédemptrice, sont aussi présents dans le prologue. Non seulement tout ce qui existe est venu à l'existence par le logos, au verset 3, mais puisqu'en lui était la vie, ceux qui l'ont accueilli ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Chapitre 1, verset 13. Cela risque peut-être de paraître comme une évidence, mais peut-être celle-ci vaut-elle la peine d'être rappelée. En articulant l'idée selon laquelle Dieu et le Logos sont impliqués à la fois dans la création du monde et dans sa rédemption, le prologue souligne, appuie même emphatiquement la bonté de cette création. Ainsi, quelle que soit la noirceur de ce monde, quelle que soit l'ampleur de la présence du mal ou de la violence dans celui-ci, notre auteur n'est aucunement en accord avec des idées gnostiques, par exemple des idées qui apparaîtront au IIe siècle de notre ère. Selon le gnosticisme, le monde matériel était foncièrement mauvais, alors que le spirituel était foncièrement bon. Le quatrième évangile ne pense pas en ces termes dualistes. Non, le monde, créé par le Logos, est aimé tout entier de lui. Tant aimé que ce dernier s'y est incarné pour le restaurer. Dieu n'a donc pas simplement informé l'humanité du don de la vie. Non, il a envoyé son Fils. Le Logos partageait l'humanité de ceux qu'il voulait sauver. L'incarnation, donc, souligne aussi la bonté de l'humanité. Comme le dit Ben Witherington, en s'incarnant, le Logos est devenu plus que ce qu'il était auparavant, pas moins. À sa nature divine, il a ajouté une nature humaine. Quelle implication une telle théologie de la bonté de la création peut-elle avoir sur les sciences humaines ? Tout simplement, celle-ci nous rappelle que notre champ d'étude est un champ non seulement créé par Dieu, mais aussi aimé par lui. En cela, notre passion pour nos recherches ne doit pas nous étonner, et encore moins nous paraître désuètes ou mal placées. Si Dieu et le Logos ont créé le monde, s'ils l'ont tant aimé qu'ils s'y sont impliqués personnellement pour sa rédemption, alors qui sommes-nous pour penser que la sociologie n'est pas importante ? Qui sommes-nous pour relativiser la valeur et la portée de la linguistique, de la littérature, de l'histoire ou de la musique ? Ces matières, ces champs de recherche intéressent aussi Dieu. Il les a créés et il les aime parce qu'ils ont trait à sa création. Mais la bonté de la création la valeur suprême que celle-ci tient aux yeux de Dieu ne signifie pas pour autant que ce monde est sans aucun défaut. La volonté rédemptrice de Dieu pour ce monde signale d'ailleurs ce point. Et c'est ici que le motif de la lumière et des ténèbres, très présent dans le prologue, peut nous aider à aller plus loin dans une articulation logos-sciences humaines. Nous le savons, la lumière et les ténèbres sont deux caractéristiques fondamentales du monde dans lequel nous vivons et de l'existence humaine en particulier. Nous vivons au rythme du jour et de la nuit. Nous sommes placés soit sous le soleil, soit sous une ombre. Le fait même de prononcer ces mots, lumière et ténèbres, évoque dans nos esprits toute une série d'associations cognitives ou affectives, parfois contradictoires. La lumière apparaît doucement à la levée du jour, mais le soleil nous éblouit à midi, ce qui est désagréable. Il éclaire notre chemin, mais nous expose aussi parfois dangereusement à la vue de chacun. La nuit, elle, peut évoquer le sommeil réparateur, mais aussi la terreur de l'inconnu, le péril de l'invisible, de la mort. Et qu'en est-il du prologue ? Comment présente-t-il ces notions de la lumière et des ténèbres en lien avec le logos ? Les images de la lumière et des ténèbres apparaissent dans la première partie du prologue, versets 1 à 13, la partie où les enjeux présentés sont d'ordre cosmique, universel, relatant le logos à l'humanité tout entière. Là, le prologue décrit le logos comme étant vie, une vie qui était la lumière des humains. Verset 4. Cette lumière, donc la lumière du logos, de la sagesse divine, manifeste la puissance et la présence de Dieu dans le monde. Elle signifie la vie donnée aux humains. Et la vie dans l'évangile de Jean a certes une dimension physique, mais c'est aussi et surtout la vie éternelle, la relation nouvelle possible entre Dieu et l'humanité. L'évangile montrera d'ailleurs à plusieurs reprises que certains qui sont en vie n'ont pas la vie, parce qu'ils rejettent Dieu et son messager Jésus-Christ. Par contre, ceux qui sont éclairés ou illuminés par le Logos, la véritable lumière, reçoivent du même coup une connaissance de Dieu qui les transforme, les amenant à une harmonie nouvelle avec la parole de Dieu incarné. Ils passent alors de la mort à la vie. Cette illumination n'est donc pas le fait d'une instruction, ce n'est pas le fait d'un enseignement sur la loi, ce n'est pas le fait d'une instruction philosophique, mais c'est le fait de la foi en Jésus-Christ, d'une relation nouvelle à Dieu. Face au Logos, face à la vie qui est lumière des humains, les ténèbres, eux, font office d'adversaires, d'ennemis dans le prologue. Puisque la lumière représente la puissance et la présence de Dieu dans le monde, les ténèbres, eux, représentent les puissances qui opposent Dieu. Le péché, le mal. Dans l'évangile selon Jean, le péché est rébellion contre Dieu et il se manifeste par l'hostilité du monde, d'hommes et de femmes, contre Jésus. Si la lumière représente la vie du Logos, les ténèbres, eux, représentent la mort, l'ignorance, l'incrédulité. Or, la lumière est plus puissante que ces ténèbres. S'ils ont bien tenté de se saisir d'elle, le prologue indique qu'ils ont échoué. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu la saisir. Contrairement au cycle journalier de la nuit qui absorbe le jour dans l'obscurité, les ténèbres n'ont pu éliminer la lumière du Logos. Comme le disait le livre de la sagesse, la nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Cette vision johannique du monde, cette dualité lumière-ténèbres, est, de fait, le champ d'étude des sciences humaines, n'est-ce pas ? Un monde créé et en voie de rédemption, mais un monde où les ténèbres et avec eux la mort, la haine, l'incrédulité, la violence, le mensonge, un monde où toutes ces choses sont bel et bien toujours présentes. Cette réalité des ténèbres, certes, rend nos recherches en sciences humaines difficiles et fascinantes à la fois. Mais cette présence peut également rendre nos études décourageante, voire désespérante. Qui n'a jamais été pris de cynisme, ne serait-ce qu'en regardant ou en écoutant le monde qui nous entoure? Qui, de plus, n'a jamais réalisé, effrayé, que les ténèbres faisaient aussi partie de son être propre, de sa vie? Alors pour lui, pour elle, qui expérimente l'ambivalence de ce monde et l'étudie à la fois, quelle attitude adopter? Dans le prologue, au verset 6 à 8, un nouveau personnage apparaît. C'est Jean, Jean-Baptiste. Un personnage qui peut ouvrir pour nous une piste dans notre tentative de réponse, me semble-t-il. Ce Jean-Baptiste était envoyé de Dieu et il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Cette section du prologue fait donc rentrer le Logos dans la sphère des affaires humaines, dans le concret du 1er siècle en Palestine, où Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière, afin, nous dit le texte, que tous croient en lui. Ayant lui-même été éclairé, illuminé par la sagesse divine, sa compréhension, sa manière de vivre furent renouvelées, recréées. C'est le but de la sagesse, c'est le but de cette lumière, hein, que de nous éclairer et de changer nos comportements. Jean-Baptiste avait trouvé la vie. Il avait été saisi par cette sagesse personnifiée, Jésus-Christ. Et il désirait donc en témoigner autour de lui. Cette vie nouvelle ne l'a pas pour autant retiré du monde, attention, ni même cuirassé contre tous ses maux. L'Évangile dira par exemple que Jean-Baptiste a été jeté en prison plus tard, au chapitre 3, verset 23. Il était bien implanté dans ce monde, même si éclairé. Il n'était pas protégé des ténèbres. Jean-Baptiste était un prophète, un précurseur. Il était un héros criant dans le désert. On le voit au chapitre 1, verset 23. Il n'était donc pas un chercheur en sciences humaines. En cela, il nous est peut-être, pour ce qui est de notre domaine d'étude, en tout cas, assez éloigné. Mais Jean-Baptiste était témoin. Et je pense que c'est à cette notion en particulier que nous pouvons nous rattacher, voire nous identifier, quel que soit notre domaine de recherche. Alors, peut-être ne sommes-nous pas appelés explicitement à témoigner de Jésus-Christ dans le sens d'une évangélisation ou d'un appel à croire en lui. Nous ne sommes probablement pas appelés, comme Jean-Baptiste, à aller crier dans le désert, à manger du miel, manger des sauterelles, etc. Non. Mais tout de même, ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quel que soit notre domaine de recherche, ne sommes-nous pas appelés à témoigner, c'est-à-dire à reconnaître, voire à décrire honnêtement la lumière là où elle se trouve? Le monde que nous étudions n'est pas exclusivement un monde de ténèbres, nous le savons. Il est aussi un monde où jaillit la lumière du Logos, le lieu où la vie de Christ a un impact. Que ce soit donc dans les domaines de la psychologie, de la communication, de l'anthropologie, pour ne citer que, la dualité lumière-ténèbres est présente. Mais les chrétiens sont animés par l'espérance, non par le cynisme. Les ténèbres n'ont pu saisir la lumière. La lumière a vaincu les ténèbres. Les chrétiens, impliqués donc dans les sciences humaines, voient cela. Ils le reconnaissent et ils peuvent en témoigner. À la suite de ces antécédents hébraïques, le prologue parle du Logos comme étant vivant, comme étant actif dans la création. C'est là une manière de parler du seul vrai Dieu d'Israël dans son immanence, dans sa présence dans l'histoire, dans le monde des humains. C'est là, en particulier, sa manière de parler de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans ce monde empreint de ténèbres. Mais ce qui est foncièrement nouveau, et ce qui peut paraître surprenant, c'est que le terme « logos » est utilisé pour parler d'une personne, une personne incarnée. Le logos, celui par qui tout a été créé, celui qui est lumière brillant dans les ténèbres, est devenu chair et il a fait sa demeure parmi nous. Le Logos n'est pas un simple attribut divin, même personnifié, pas une théorie abstraite, pas un code moral, pas un concept philosophique. Non, il est une personne. Plus encore, une personne humaine, une chair fragile, mortelle. Là se trouve toute la nouveauté joannique. Et là se trouve également une ouverture passionnante pour nos études comme pour nos vies. Si le logos et la sagesse étaient auparavant dans la pensée juive associés à la Torah, le prologue l'identifie à une personne avec qui une relation est possible. C'est donc en apprenant à connaître cette personne, en marchant avec elle dans le récit de l'évangile de Jean, par exemple, que nous apprendrons qui est le logos et ce qu'il peut signifier pour nous, dans notre monde, dans nos activités. C'est en faisant de lui la sagesse personnifiée, l'objet de notre quête, que nous pourrons devenir ses témoins, là où il nous a placés. Mais comme l'exprime Andrew Lincoln, le prologue n'est pas une simple présentation de l'identité de Jésus, placée dans le cadre de la pensée hébraïque du premier siècle. Non, la dernière partie du prologue explicite que ces 18 versets sont aussi et surtout une confession. Une confession de la part du narrateur et de la communauté de croyants qu'il représente. Dans cette confession, ceux-ci clament avoir vu la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Une gloire bien différente de celle que Moïse et Israël ont expérimentée au Sinaï. Cette confession, en retour, n'est pas simplement une belle pensée sur la signification ultime et nouvelle de Jésus. C'est bien plus que cela. C'est un témoignage dans le monde, faisant le récit de la grâce transformatrice qu'ils ont expérimentée en Jésus-Christ et qu'ils veulent partager autour d'eux. Bien, chers amis, cette communauté de foi, c'est aussi la nôtre. Sa confession est aussi la nôtre. Et son témoignage, ce témoignage sur la grâce transformatrice du Logos, peut aussi être le nôtre. Je vous remercie. Thank you.